Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Ah. Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Poète, chanter, il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi.
Alors que je regardais attentivement la programmation de Frisson en ce début d'année, je fus victime d'une véritable décharge électrique, une putain de crise cardiaque, un choc sismique qui m'interpelle toujours. Car l'air de rien, style je m'en balance au détour d'une programmation déjà riche, voilà que Frisson diffuse sans prévenir, là hop, vas-y que je t'entourloupe, un véritable film maudit, une perle rare qui n'est même pas sortie en DVD, le genre d'OVNI enregistré séance tenante et qui aurait mérité qu'on en fasse davantage de pubs, je parle bien sûr de The Keep, alias la forteresse noire du grand Michael Mann, avec Jürgen Prochnow, Scott Glenn et Gabriel Byrne. À l'heure où je vous parle, une édition DVD du film joue toujours l'arlésienne, sans bonus ni scène coupée, alors que le film, charcuté par la Paramount avant sa sortie en 1983, ne cesse d'être diffusé sur les télés américaines dans des versions tronquées, toutes différentes. Comme quoi, certains films sont perpétuellement victimes du mépris hallucinant de leurs ayants droit, quand bien même leurs auteurs sont depuis célébrés. Deuxième film de Michael Mann après l'excellent Solitaire, La Forteresse Noire se voulait un croisement entre le film de genre horrifique, imaginant dans un village des Carpates le réveil par une colonne de nazis d'une créature lovecraftienne qui va les décimer un à un, et le film d'auteur symbolique, confrontant deux figures absolues du mal, le fascisme national-socialiste d'un côté et son émanation mythologique de l'autre, sorte de vampire ou de golem purement métaphorique qui cherche à duper tout le monde. Au milieu de tout ça, la présence d'un savant juif et de sa fille finit de boucler une dramaturgie hautement allégorique, questionnant avec nuance et profondeur les enjeux philosophiques, historiques et religieux du XXe siècle. Faux film fantastique, mais véritable œuvre idéologique, La Forteresse Noire était l'occasion pour Michael Mann d'expérimenter une stylisation à outrance, où sa mise en scène typique, mixant éclairage blafard et musique électronique, rencontre l'expressionnisme allemand, pour nous offrir une œuvre graphiquement unique en son genre, même si aujourd'hui, les effets spéciaux paraissent datés. Le léger hic, c'est que cette obsession graphique, alliée à une réflexion idéologique complexe, se fait au détriment du film de genre dans lequel elle prétend s'inscrire. En résulte une œuvre inégale, bourrée de défauts, mais qui reste fascinante. Une œuvre admirable dans son propos et dans sa recherche graphique, comme chaotique dans sa structure et dans sa narration. Seule la version originelle voulue par Michael Mann d'une durée de 3 heures pourrait nous éclairer davantage. Mais comme d'habitude, ce sont souvent les œuvres les plus importantes qui sont les plus dénaturées.
And I'm alive. Mon histoire avec Michael Mann a commencé par un rendez-vous manqué. J'étais allé voir Révélation et je suis tout simplement passé à côté. La musique, et tout particulièrement cette voix, y était franchement pour quelque chose. Ce n'était que partie remise. Il a fallu que je découvre Le Solitaire, son premier film, pour que je commence à comprendre quelque chose à Michael Mann. Il faut dire que la musique était signée Tangerine Dream, et comme j'ai une passion pour le krautrock, ça m'allait très bien. D'ailleurs, à cette époque, Michael Mann adorait Tangerine Dream, au point qu'il leur avait demandé de remettre le couvert sur La Forteresse Noire, son deuxième film. Grâce à Tangerine Dream, j'avais compris que Michael Mann était ambiante, dans Le Sixième Sens, comme dans Heat. Bon, il avait aussi un petit côté années 80, même dans Miami Vice, et un petit faible pour le rock FM américain, comme dans Collateral. Et même pour le bluegrass, comme dans Public Enemies. Cela dit, ce qu'aimait surtout Michael Mann, c'était les courses en musique. Dans La Forêt, pour Le Dernier des Mohicans, mais surtout en ville, la nuit, comme moi, Michael Mann devait être un adepte du jogging. Non, je rigolais. À part ça, notre ami Michael aimait aussi les calèches et les chevaux. Mais surtout, ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était rouler la nuit avec la radio à fond. Et là, franchement, j'étais hyper d'accord avec lui. Même en car, ça marchait. En camion, je ne vous raconte pas. Et en camion de guerre dans la forêt, encore mieux. Mais bon, quand même, pour Michael Mann comme pour moi, il n'y avait vraiment rien de mieux que la voiture, surtout au bord de la mer, au crépuscule. Tout ça, ça donnait envie de faire un peu de sport nautique. En pirogue, par exemple. En voilier. En bateau de pêche. Mais surtout en hors-bord, comme dans Miami Vice. Je me souviens d'ailleurs avoir gravement fantasmé sur cette scène où Colin Farrell et Gong Li vont boire un drink à Cuba, en musique et en bateau. Je dois avouer que j'aurais bien aimé être à la place de Colin Farrell. Sinon, puisqu'on parle des moyens de transport, Michael Mann aimait aussi l'avion. Et même, plus improbable, le pigeon voyageur. Mais là, c'était vraiment pas de bon augure. D'ailleurs, ça me fait penser que ça canarde beaucoup chez Michael Mann, et si possible en musique. Sur ce terrain, la scène que je préfère, c'est quand Tom Noonan et William Petersen se tirent dessus dans Le Sixième Sens, sur fond de Inagada Davida, Die or Butterfly. Et là, ça le fait grave, vous ne trouvez pas ? À part ça, Michael Mann est comme moi, il adore les musiques noires. Billie Holiday dans Public Enemies. Miles Davis, période électrique dans Collateral. Et même que Tom Cruise, il en connaît un rayon sur le sujet.
Jazz. It's off now. Behind the notes. not what's expected.
Et oui, avec Michael Mann, il faut s'attendre à tout en matière de musique. Sinon, il adore aussi Sam Cooke et Aretha Franklin. Normal, c'est dans Ali, et c'était des amis du plus grand boxeur de tous les temps. Michael Mann aime aussi Salif Keita. Mais là, je suis un peu moins d'accord avec lui. Il aime aussi l'afrobeat. Et là, je le suis à 100%. Bon, il aime le rap, normal. La dance, comme dans Collateral et dans Miami Vice, normal. Mais plus surprenant, il aime aussi les danses latines, surtout quand on retrouve nos amis Colin Farrell et Gong Li. Tiens, ça me donne chaud tout d'un coup. Au bout du compte, comme Michael Mann est un type cool et qu'il aime toutes les musiques ou presque, on a fini par devenir franchement potes. Sauf que finalement, en farfouillant dans sa filmographie, j'ai découvert un truc franchement bizarre. Une espèce de créature blanche, informelle, qui ressemble à la barbe du Père Noël. Le tout sur fond de Tangerine Dream dans la forteresse noire. J'étais arrivé à une certaine perplexité. J'avais besoin de prendre du recul. Est-ce qu'avec Michael, nos chemins allaient se séparer? Non, définitivement non. Finalement, j'adorais ça. Et franchement, ce dont j'avais le plus envie, c'est de rester avec le monstre blanc aux yeux rouges et Tangerine Dream jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit.
compte pas faire ça toute ma vie, c'est juste le temps de me retourner. En attendant de passer à autre chose, c'est du provisoire.
Il y a longtemps que vous êtes taxi?
Ça va faire 12 ans. Premier séjour à LA?
Oui. Je suis là pour une transaction immobilière. Ça doit se régler dans la nuit. J'ai 5 visites à rendre. Je récupère des signatures, je vois des amis et je redécolle à 6 heures. Pourquoi vous restez pas avec moi?
Parce que la voiture est pas allouée.
Je paie $600.
J'en sais rien.
Je crois que si.
600?
Parfait, marché conclu. C'est quoi ton nom?
Max.
Max. Et moi, Vincent.
On voit vraiment qu'il est pas du coin.
Yes, sir, I'm afraid I have.
Patrick?
Yes, sir, I'm afraid I have.
And Martin?
Yes, sir, I'm afraid.
Ensemble, cette émission sentira le néon qui flash, le 9 mm, le poulet grillé, avec pour devise principale.
Revenge is a meal best served cold.
Et ça, je ne l'échangerai jamais contre 1000 choristes bien-pensants et autres Constantine donneur de leçons. Dans la vie, faut connaître ses priorités. L'événement de la semaine est la sortie dans un DVD correct, mais pas transcendantal, du meilleur polar, voire du meilleur film de l'année dernière. Je parle bien sûr de l'hypnotique collatéral du grand Michael Mann avec Tom Cruise et Jamie Foxx, film de genre hautement existentiel dont l'imagerie époustouflante transcende un scénario prétexte. Que les choses soient bien claires, aussi génial soit-il, et je considère vraiment Collateral comme un chef-d'œuvre rare et précieux, le film de Michael Mann ne se distingue pas par son scénario, qui sans être squelettique ou simpliste, souffre en particulier lors de son final d'articulation grossière. Pour le coup, il est important de noter que Collateral est le premier film dont Michael Mann n'a pas écrit ou co-écrit le scénario. Le film est à la base une commande, que Mann s'est certes appropriée, mais qui avait été proposée en vrac à Spike Lee, Spielberg et Scorsese, et à des stars aussi différentes qu'Adam Sandler, Edward Norton, Val Kilmer ou Russell Crowe. Preuve en est que ce n'est pas le récit en soi qui a fasciné le réalisateur de Heat, lui qui reste l'un des plus grands conteurs d'histoire actuelle, mais sa structure, qui permettait de construire les destins croisés d'un tueur à gages indifférent et d'un chauffeur de taxi apathique, dans un lieu qu'il affectionne, avec une unité de temps limitée. Extrêmement frustré par l'arrêt brutal de sa série télé Robbery Homicide Division, suite à des divergences artistiques avec ses producteurs, Michael Mann trouvait avec Collateral le moyen de les remettre à leur place en donnant à la ville de Los Angeles le rôle principal de son film et en traduisant son amour pour elle par des expérimentations visuelles que ses anciens pontes du tube catholique lui avaient refusées. Au-delà de la volonté de capter les nuances de la nuit californienne, ce qu'il n'a cessé de répéter en interview, c'est une des raisons qui ont poussé Michael Mann à tourner 80% de son film en vidéo haute définition. Prouver, peut-être inconsciemment, que la vidéo offre le même potentiel expérimental que le cinéma, tout en faisant un bras de fer magistral à cette industrie télévisuelle dont il est l'un des pionniers, qui lui tiennent énormément à cœur et qu'il continuera d'explorer dans son film suivant, l'adaptation de Miami Vice. Mais au-delà d'une mise en scène stupéfiante de bout en bout, qui n'hésite pas à dynamiter avec génie toutes les règles établies du cinéma, Collateral est aussi, comme toujours chez Michael Mann, une étude de caractère complexe et subtile, en même temps qu'une œuvre où l'atmosphère envoûtante compte plus que tous les mots. Los Angeles, comme incarnation de ce que Baudrillard appelait l'anéantissement de la culture dans la géologie, entre ses buildings chaotiques striés de néons et ses rues délabrées, vestiges de l'ouest sauvage aux zigzags des coyotes en perdition, définit à sa manière un questionnement existentiel. Ne pas le voir et le revoir serait une insulte faite au 7ème art.
What's with?
Yes, sir, I'm afraid I have.
Patrick?
Yes, sir, I'm afraid I have.
And Martin?
Yes, sir, I'm afraid.
Oh non! Oh mon dieu! Hé, hey, ça va? Putain! Hé, hey, il est tombé sur la bagnole. Je crois qu'il est cané.
Je confirme.
Vous? Vous avez tué ce mec?
Non, j'ai tiré sur lui. Les balles et la chute l'ont tué. Tu tiens le volant, je fais ma tournée, et tu vois le jour se lever.
Je peux pas vous balader pendant que vous flinguez à tout va, c'est pas mon job.
Cette nuit, ça l'est.
passer à l'action dans la rue. Sois libre comme l'air. Tout ce qui est entré dans ta vie, tu dois pouvoir t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, avant que ça se mette à chauffer dans le coin.
En plein cœur de Los Angeles.
Tu reconnais leur méthode ?
Leur méthode, c'est d'être des pros. Si tu crois que ces mecs vont marquer un essai et passer à autre chose, moi, j'en doute.
Un inspecteur de police implacable est sur la piste.
Où est-ce qu'on en est ?
D'un voleur professionnel.
Tu es le fugitif numéro 1 et tu es blessé, ça double les risques.
Faux, ça quadruple les risques et je suis deux fois plus dangereux que ton pire cauchemar.
Allez !
Et de son complice prêt à tout.
La banque justifie les risques. On devrait se la faire.
Je veux une surveillance à plein temps, 24 heures sur 24, de nuit comme de jour, ouvert même le dimanche.
Suppose qu'ils connaissent notre numéro, suppose qu'ils connaissent notre adresse, suppose qu'ils nous connaissent. Bang, bye bye.
Il redoublait d'audace à chaque tentative.
Il y a combien, en gros ?
Plus de 12 millions.
Je marche.
Mais un flic...
Il est là, je le sens à plein nez.
...était à leur trousse.
Quel que soit leur prochain objectif, je crois qu'ils vont avoir la surprise du siècle.
Bientôt, pour la première fois à l'écran, Al Pacino et Robert De Niro, tous deux récompensés aux Oscars, s'affrontent.
Si je suis sur place, et si je dois te neutraliser, j'aurai pas le choix. Je serai forcé de te descendre.
Et admettons que tu m'aies coincé, et que moi j'ai pas le choix, parce que jamais je ne te laisserai me barrer la route. Ne crois pas que j'hésiterai. Pas une seconde.
Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, dans un film de Michael Mann. Heat.
A harmless evening smoking pot, and each one is sure he won't get hooked. They think there's still a future. But in a year, half of them will be on the hard stuff, and next year, three out of every 10 will be dead.